La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots sur RFI qui retrouvera tout à l'heure, puisque nous sommes lundi, notre séquence Ma Parole avec le service langue française de RFI, mais qui auparavant va s'intéresser à un personnage hors du commun qui a un prestige et une hauteur de vue qu'on rencontre assez rarement, c'est Abdelkader. Abdelkader, donc ce héros de la lutte anticoloniale et au départ de la lutte contre l'envahisseur français. C'est un personnage auquel Yahya Belaskri, qui est journaliste et écrivain, et d'ailleurs je crois ancien d'RFI, vient de consacrer un ouvrage extrêmement intéressant, facile à lire, court et tout à fait clair, qui s'appelle Abdelkader, le combat et la tolérance, et qui est édité chez Magellan et compagnie. Et pour nous familiariser un petit peu plus avec cette hauteur de vue dont je vous parlais chez Abdelkader, je vous propose tout de suite Yahya Belaskri de nous lire un extrait d'un texte, d'un poème soufiste écrit par Abdelkader qu'on va entendre en arabe d'abord et ensuite peut-être vous nous direz ce que ça veut dire.
Aya ana man akun in lam akun anta wa ya anta man takun in lam takun ana. فيا نورا بلا شمس ويا شمسا بلا نور ويا بحرا بلا حد وساحلا بلا بحر ويا فجرا بلا ليل ويا ليلا بلا فجر يا حيرتي يا دهشتي لقد حيرتني حتى في حيرتي وفي أمري. Qui suis-je si je ne suis pas toi? Qui es-tu si tu n'étais pas moi? Tu es la lumière sans le soleil, et le soleil sans la lumière. Tu es l'océan sans le rivage, et le rivage sans l'océan. Tu es l'aube sans la nuit, et la nuit sans l'aube. Tu es mon incertitude et mon étonnement. Tu m'as rendu perplexe dans ma propre incertitude et mon existence.
Merci bien Yahya Belaskri pour cette lecture et pour cette traduction, et on voit tout de suite la dignité incroyable et la hauteur du personnage. Alors Abdelkader, c'est difficile de vous demander qui c'est, puisque justement vous venez d'écrire tout un livre sur sa vie, mais c'est un personnage à facettes multiples.
Absolument. Abdelkader, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, c'est un résistant à la colonisation française, mais au-delà de cela, et c'est de cette manière qu'il est connu en Algérie et dans le monde, mais au-delà de cela, il est connu comme étant quelqu'un qui, à un moment donné, s'est levé, s'est dressé pour sauver les chrétiens de Damas en 1860 lors d'un pogrom qui a été initié par les Druzes musulmans. C'est un homme qui a toujours mis l'individu, l'homme, l'humain au centre. Alors imaginez ce musulman, cet homme de foi, alors que j'allais dire que plus musulman que lui, ça n'existe pas, qui dit à un moment donné que je n'ai fait que mon devoir de musulman en sauvant les chrétiens. Ça semble assez, devant la situation de actuelle, ça semble assez extraordinaire.
C'est un bel exemple.
Et pourtant, il l'a fait. Et il a dit, cette parole aussi, tout être est mon être.
Alors bien sûr, en France, on connaît beaucoup Abdelkader pour être celui qui a résisté pendant très longtemps, de façon très courageuse et même très valeureuse, parce que longtemps il a mis en échec une armée française infiniment plus nombreuse et plus puissante que les troupes qu'il avait autour de lui, à partir de la conquête. La conquête, c'est 1830, elle commence en 1830. Lui, il est né en 1808 ou 1807, on ne sait pas trop.
C'est cela, oui.
Il est extrêmement jeune et à partir de 1832, il a fédéré des troupes autour de lui et il résiste.
Il a fédéré les tribus de l'Ouest avant tout, et pour se dresser contre cette colonisation qui était très dure, très violente. Et vous l'avez dit, au plus fort de la mobilisation, il avait 10 000 hommes. En face, il avait plus de 100 000 hommes, avec 150 officiers de rang, généraux de rang, 5 princes, et des gens qui sortent des grandes écoles, une armée qui avait un armement lourd, sophistiqué, et avec ces 10 000 hommes, il va réussir à mettre en échec cette armée coloniale pendant 14 ans. Ni blessé, ni arrêté, ni emprisonné jusqu'au moment où il dépose les armes parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il était isolé, parce qu'il y a eu une conjonction de beaucoup de facteurs qui fait qu'à un moment donné, il va déposer les armes et se rendre. C'est vrai que c'est un homme courageux et c'est un homme valeureux, comme vous l'avez dit, parce qu'il met les valeurs humaines au-dessus de tout, et notamment quand il a des prisonniers français.
Alors, on voit que quand il commence à être ce chef de guerre, Abdelkader est extrêmement jeune. Il a
22 ans quand il commence la guerre, voilà.
Parce que son père est malade, il mourra peu après, et justement, il peut se lever. Et on dit, car il a une généalogie quand même extrêmement prestigieuse derrière lui, on parle toujours de lui comme étant l'émir Abdelkader. Qu'est-ce que c'est qu'un émir ?
Ça, c'est une distinction religieuse. C'est-à-dire qu'un émir, il relève d'une tradition dans la religion musulmane, à la différence d'un sultan, par exemple, d'un roi, qui est, lui, désigné de manière tout à fait, de manière héréditaire. Lui, émir, c'est sa place dans la communauté des croyants. Donc, on ne peut pas, le calife. Mais ça, c'est une histoire ancienne qui a à voir avec l'Empire Ottoman, bien avant l'Empire Ottoman aussi. Mais lui, l'émir, c'est celui qui va fédérer les croyants, la communauté des croyants. Et donc, c'est vraiment très religieux.
Alors, il y a un certain nombre de mots comme ça qu'on associe assez spontanément à Abdelkader. Je vous parlais de l'émir. On ne peut pas penser à Abdelkader sans penser à Sasmala. D'abord parce qu'il y a toute une iconographie assez fantaisiste, à mon avis, qui a été élaboré tout à fait après coup et par les Français, qui présente justement la prise de la Smala d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale. Mais cette Smala, dites-nous un petit peu ce que c'était, Yahya Belhaskri, parce que ça donne une bonne idée de l'intelligence en même temps extraordinairement concrète d'Abdelkader.
Alors, au départ, il avait sa capitale à Mascara. Et quand la ville de Mascara est assaillie et détruite par l'armée coloniale, il va la déplacer à Tagdemt, une autre petite ville cachée par les montagnes, et là aussi elle sera prise. C'est là que va germer cette idée de créer une capitale mobile, une ville totalement mobile, mais qui sera le cœur de son pouvoir. Et par la suite, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, il y a eu des études considérables qui ont été faites sur cette ville mobile, et les gens sont restés quoi ? Devant le génie de cet homme. Parce qu'en fait, c'était des cercles concentriques qui commençaient avec le premier, qui était sa tante à lui et celle de sa famille, avec la bibliothèque, qui avait plus de 400 manuscrits, immédiatement à côté de lui. Tout autour de ce premier cercle, le deuxième qui était les artisans, tous ceux qui travaillaient pour la ville. Les artisans, juifs dans leur majorité, juifs. Ceux qui faisaient les armements, ceux qui faisaient le travaillaient le cuir, ceux qui travaillaient les autres ustensiles dont on a besoin, les vêtements et tout. Voilà. Et puis au fur et à mesure, les tribus tout autour. Et enfin à l'extérieur, ceux qui sont chargés de la sécurité, c'est-à-dire c'est son armée. Voilà. Et il y a des études très précises. C'est trop long d'en parler. Et cette ville mobile va se déplacer en fonction des mouvements des troupes coloniales pour se cacher. Et chaque fois, jamais elle a été prise. Elle a été prise par hasard parce que le duc d'Aumale et le général Youssouf sont tombés. Mais alors, ils ne s'attendaient pas à la trouver ici, à côté d'une source qui s'appelle la source Tayine. Et le commentateur français, tous, disait que par la suite, après le passage du duc d'Aumale des troupes coloniales, la plaine était gorgée de sang. Et que l'émir Abdelkader, selon Hazan, suivait les colonnes françaises qui repartaient à la trace. C'est-à-dire, c'est quoi la trace ? C'était ces livres qui étaient déchirés et jetés par les soldats. Et il les ramassait sur le chemin.
Alors, on a vu quelle a été la barbarie de la conquête française. Vous citez dans votre ouvrage, Yahya Belaskri, quelques lettres qui font frissonner, où on entend justement des officiers français parler de la façon dont ils ont conquis l'Algérie. En face de ça, la stature d'Abdelkader le représente en effet comme quelqu'un d'extraordinairement humaniste. Ce qui est étonnant aussi, c'est que après la défaite, après qu'il a été emmené en France, il s'est lié d'une certaine façon à la France, à la culture française et à certaines personnalités françaises.
Mais absolument, c'est-à-dire que cet homme qui a combattu et qui à un moment donné dépose les armes, premièrement il a fait l'objet d'un parjure de la part des officiers de l'armée
française. On y reviendra dans 5 minutes.
Très bien. Et donc cet homme a à cœur de traiter les êtres humains, les individus, comme il se doit, convenablement, sans les humilier. Même quand il a des prisonniers, et les prisonniers eux-mêmes le diront, les prisonniers français, qu'il les a très bien traités. Et ce sont des prisonniers français qui vont venir le voir quand il est en captivité pour lui dire « Merci, nous reconnaissons votre magnanimité ». Et tout le monde a reconnu ça chez lui, même le grand biographe Bellemare, qui a écrit, qui dit que c'est un homme exceptionnel. Bugeaud, criminel s'il en est, a reconnu la stature de cet homme d'Abdelkader.
Oui, ce qui fait qu'il a eu une image, même en France, relativement positive, dont peuvent témoigner d'ailleurs certaines musiques militaires bizarres qui évoquent vraiment la France, la tradition française, le début du XXe siècle ou l'extrême fin du XIXe, et qui pourtant sont écrits à la gloire d'Abdelkader.
Parle bien notre cher président, à qui il est éloquent, et quel diplomate épatant. À Dunkerque il dit messieurs, vive l'honneur, à Marseille il vous sort, vive le midi, qu'aucun ne sort. Mais quand en Algérie il part pour quelques jours, tout le long du parcours, il potasse un très beau discours. Il parle d'un ton bref, mes amis, y'a bon ou bézef, me voici, je suis algérien, et si je viens ce n'est pas pour rien. Je suis venu pour vous dire en un sourire, je suis venu pour vous répéter tant et plus. Ah si le brave Abdelkader revenait en Algérie, il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Il y a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader.
Une fantaisie colonial qu'on entendait, qui montre justement d'une certaine façon comment c'est devenu un personnage presque aimé par les Français. Alors, Yahya Belaskri, je rappelle que vous venez d'écrire donc Abdelkader, le combat et la tolérance, et que vous êtes ici dans la danse des mots pour en parler. Ce qui revient à plusieurs reprises dans votre éloge d'Abdelkader, c'est le fait que c'est un homme de parole. Vous disiez justement qu'il a été emprisonné et emmené en France parce que les Français ont manqué à leur parole, ce qui semble l'avoir profondément choqué. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, avoir une parole?
Cela relève d'une culture déjà fondamentale, une culture orale où les choses ne se règlent pas, les contentieux ne se règlent pas par des contrats, par des documents écrits, mais par l'échange de paroles. Tout est basé sur cela. Et Abdelkader, sa culture musulmane, sa culture algérienne d'Afrique du Nord, c'était le fondement de cette culture, c'était la parole donnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit je viens, vous venez. Vous ne pouvez pas vous dérober, c'est pas possible. Il ne faut pas l'écrire sur le marbre. C'est la parole est sortie et la parole vous engage. Et c'est fondamental. Lui, quand il se présente devant la Mauricière, puis après, il rencontre le duc d'Aumale, il demande leur parole. Alors eux, je suppose qu'ils sont certainement honnêtes, sincères. Ils disent oui, nous vous donnons, je suppose, nous vous donnons notre parole.
Vous leur faites beaucoup de crédit.
Oui, hein. Peut-être, certainement. Mais en tout cas, ils disent oui. Mais parce qu'il n'y a, pour eux, il n'y a pas de document écrit, et notamment une autorisation du roi. Ouais. C'est ça le problème. Or, lui, Il ne croit qu'à la parole donnée. C'est-à-dire c'est pas possible autrement.
Oui, on a le choc de deux civilisations. L'une qui repose sur le signe de l'écrit. Qu'est-ce qui vaut ? C'est l'écrit. C'est le traité, c'est la signature. Et une autre en face où on est dans justement le domaine de la parole donnée.
Absolument. Et d'ailleurs, pour la question des traités, il a signé un traité avec des Michel auparavant. Il a signé un traité avec Bugeaud aussi plus tard. Et donc aucun traité n'a fonctionné. Parce que précisément...
Alors vous dites très bien, parce que c'était des traités à double entrée, et ce qui était dans la version arabe ne correspondait pas à ce qui était dans la version française. Et donc, est-ce que c'était biaisé au départ ?
Mais bien entendu, c'était biaisé, mais bien entendu. Mais avec Abdelkader, il aurait fallu juste de discuter, de s'asseoir, discuter, de dire « entendu » sur tel et tel point, et ça serait passé. Pourquoi ? Parce que encore une fois, c'est cette culture de la parole. C'est-à-dire que quand on veut régler une question, on s'assoit et on se parle. C'est ça, fondamentalement. Et il est de cette culture-là. Il n'est pas de cette culture de l'écrit, même si c'est quelqu'un qui écrivait de la poésie, même si c'est quelqu'un qui lisait, qui était instruit, qui avait étudié même les philosophes dans la médersa de son père, mais c'était la parole, les mots échangés ont valeur de contrat, et sont contraignants.
Alors, bien sûr, la vie d'Abdelkader ne se résume pas à la lutte contre l'envahisseur français, ni à sa captivité en France, puisque, vous le disiez après, il a été vivre à Boursa, qu'on appelle Brousse à l'époque, puis il a vécu un moment à Damas où il y a cet épisode extraordinaire, où il sauve des milliers de chrétiens qui sont menacés par les druzes musulmans, et tout cela est traversé par le soufisme d'Abdelkader. Alors, il est initié au soufisme extrêmement tôt.
Très tôt. Très tôt, dès le départ, il avait à peine 17 ans quand il part à la Mecque avec son père, et que son père, et donc il va au Caire, mais en même temps il va en Irak où il rencontre les responsables de la Zawiya, de la Tariqa, de la voie soufie que suit son père. Et c'est là qu'il est déjà imprégné une première fois. Par la suite, quand il va étudier tout le temps, même quand il était résistant, il va étudier. Il est toujours dans les livres, il est toujours dans sa croyance. Mais quand il va aller à Damas, il va approfondir ses connaissances de la voie soufie et s'imprégner définitivement de cette voie.
Et alors, il s'agit d'une initiation spirituelle, d'un courant très particulier dans l'islam.
Oui, cette initiation est longue, très importante et rude, parce qu'il faut une retraite de plus d'un an, un an et demi à peu près, seul, dans une grotte, en mangeant peu, mais en se donnant, en quelque sorte, à Dieu, en épousant Dieu pratiquement, si vous me permettez cette expression. Et cette culture soufie va l'imprégner de manière définitive, puisque c'est à ce moment-là qu'il dit, qu'il pense, qu'il croit, que tout individu, quelle que soit sa croyance, est l'égal de l'autre. C'est lui qui dit, chrétiens, musulmans, juifs ou mazdéens, nous sommes tous les mêmes devant Dieu. Et nous croyons en un seul Dieu.
Est-ce que c'est une passerelle, Yahya Belaskri, qui peut expliquer qu'on a dit justement qu'il avait été aussi franc-maçon ?
Mais je pense que effectivement, ça lui a facilité beaucoup plus cette liaison, ce lien avec les francs-maçons. La franc-maçonnerie à cette époque-là, c'était le concept du grand architecte. Pour lui, c'est Dieu, parce que les laïcs n'ont pas encore pris le pouvoir au sein de la franc-maçonnerie, et il y croit. Précisément parce que c'est son côté humaniste. C'est lui qui parle de hukuk al-insani,
les droits humains. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est les droits humains. C'est lui qui parle de ça au 19e siècle, qui dit que hukuk al-insani, c'est fondamental, les droits humains. C'est quelque chose d'assez... Et c'est ça qui frappe les francs-maçons qui vont lui lancer cette invitation qu'il va accepter. Il y a un échange de lettres extraordinaire où il explique sa vision du monde. Et les francs-maçons se rendent compte qu'il est en phase avec eux.
Merci beaucoup Yahya Belaskri d'être venu parler au micro de la Danse des mots de votre ouvrage qui est paru donc il y a quelques semaines chez Magellan, Abdelkader, le ton combat et la tolérance. Et il est temps maintenant de retrouver notre séquence Ma parole avec Julien Cousseau qui travaille au service langue française de RFI.
Ma parole, ça t'apprendra.
Julien Cousseau, bonjour, merci d'être le porte-parole de ma parole aujourd'hui. Alors, le bruit court que vous étiez il y a quelque temps en Inde.
Oui, namasté Yvan, j'étais en Inde effectivement, je suis allé
namasté,
au...
Namasté, je sais même pas ce que ça veut dire.
C'est pour se saluer.
Ah, namasté Julien.
En tout cas, c'est comme ça qu'il me saluait là-bas. Et donc, je suis allé au 36e congrès national de l'IATF, c'est l'association indienne des professeurs de français, donc qui a organisé ce congrès autour du thème « Apprendre le français, quel choix pour demain ?» au pluriel, quel choix. Donc ça s'est passé en novembre, il y avait 250 professeurs qui venaient de 13 états de l'Inde et on s'est retrouvés donc au Saint Xavier's College, un très bel établissement d'architecture coloniale pendant 3 jours pour discuter autour de différentes thématiques. Donc nous, le service langue française de RFI, nous sommes allés présenter nos contenus pédagogiques qui sont sur RFI Savoir et aussi animer des ateliers de formation pour intégrer la radio dans la classe de français pour les étrangers. Donc c'était aussi l'occasion pour nous d'avoir un aperçu de la vitalité du français en Inde. Et donc quand j'ai interrogé Anjali Lokur, qui est la présidente du comité organisateur du congrès, eh bien elle nous a rappelé que évidemment le français n'est ni une langue nationale ni une langue officielle en Inde, et aussi que l'Inde est un pays très éloigné des autres pays francophones. Et malgré cela, le français est une des langues les plus enseignées en Inde, et j'ai vraiment pu le voir avec tous ces professeurs que j'ai rencontrés là-bas. Donc je me suis quand même demandé aussi pourquoi cet intérêt, et j'ai posé la question à Nandita Wagle, qui est professeure à l'université de Pune, qui est aussi la présidente de l'association des professeurs de français de la zone ouest de l'Inde, et qui était dans le comité d'organisation du congrès. Donc on écoute Nandita.
Je pense que pour plusieurs parmi nous, le français, c'est pas uniquement une langue, c'est vraiment toute la culture et la civilisation qui va avec et qui nous a changé nos vies carrément. Et c'est vraiment pas une exagération. Ça nous change parce qu'on va en France assez souvent et c'est toute une façon de voir les choses, le monde, soi-même finalement, parce que quand on voit le monde extérieur, on se revoit différemment. Et c'est ce qui fait l'intérêt du français en Inde.
Donc, dans ce premier témoignage, on voit l'aspect affectif de l'apprentissage du français et de l'ouverture sur le monde.
Et on voit aussi que le français représente une culture francophone, ça c'est sûr.
Exactement. Donc, c'est cette ouverture sur le monde, et c'était d'ailleurs le premier axe de travail du congrès, le français en Inde, une ouverture sur le monde. Mais assez vite, on s'aperçoit que c'est vraiment sur le monde, pas seulement sur la France, j'insiste sur cela, puisqu'on voit assez rapidement que le français en Inde aujourd'hui, c'est aussi un enjeu économique et social. Et c'est ce que nous dit Adjé, la deuxième personne que j'ai interviewée.
Je pense que c'est un enjeu économique et social parce que, comme vous savez, les Indiens sont toujours géographiquement très mobiles et le français, c'est vraiment un grand atout pour eux parce que c'est pas seulement l'hexagone, mais c'est vraiment, ça leur ouvre plusieurs portes. Donc, on va dire, si le français est parlé dans plus de 50 pays, donc il y a 50 portes qui sont ouvertes à eux. Et ça, c'est vraiment un atout très important pour les Indiens.
Alors, à travers ce que nous dit votre interlocuteur, Julien, on voit bien que cet attrait pour le français, peut-être qu'au départ, il va mettre le doigt sur la culture, la littérature, mais ça va bien au-delà. Le français, pour ces Indiens qui l'apprennent, c'est une langue utile.
Voilà, une langue utile avec des enjeux très pragmatiques finalement, et c'est pour ça qu'on comprend les autres axes de travail qui étaient proposés sur ce colloque. C'était le français et la formation des jeunes Indiens, le français, un atout pour l'emploi, on voit bien ici un enjeu très important, et puis autour de tout ça, de nouveaux besoins, donc de nouveaux professeurs. Donc là, on va questionner la formation des professeurs. Et c'est d'ailleurs ce que nous explique Nandita, c'est que aujourd'hui, les professeurs doivent aussi se moderniser pour répondre à des besoins très concrets de leurs étudiants.
Les plus jeunes, ça va être beaucoup plus la profession, les métiers, la mondialisation, etc. Ça nous oblige également, en tant que prof, de changer nos attitudes d'enseignement, ça nous oblige aussi de changer notre façon de voir les apprenants, leurs besoins, et ne pas rester un tout petit peu sur le truc français, langue de Verlaine. Ça nous pousse vraiment à repenser ce qu'on fait en tant qu'enseignant et ce que sont nos apprenants. Et ça, je trouve ça vraiment super comme moment pour l'enseignement et l'apprentissage du français.
Donc voilà, Yvan, on comprend bien que maintenant, le français, c'est pas seulement pour pouvoir lire Verlaine ou Molière dans le texte, c'est aussi
pour acheter et pour vendre.
Pour acheter et pour vendre, et donc pour les jeunes Indiens, pour se projeter dans le monde du travail.
Donc c'est une langue commerciale, c'est une langue des affaires, et c'est une langue des affaires entre l'Inde et la France peut-être, mais en gros entre l'Inde et beaucoup d'autres pays, en particulier la francophonie, et peut-être même d'autres pays qui n'appartiennent pas à la francophonie, mais dans lesquels on peut échanger en français pour acheter et vendre.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela, pour répondre à ces besoins, que sur RFI Savoir, nous proposons aussi des outils qui vont permettre de se perfectionner dans un français de spécialité, donc dans un français des métiers, comme on dit. Et sur donc RFI Savoir, vous trouverez une collection qui s'appelle Autour des professions, dont on a déjà parlé dans une des chroniques Ma Parole, et qui va proposer de développer son lexique autour du tourisme, de la santé, des sciences et techniques, et à partir d'aujourd'hui, un nouveau chapitre autour de la mode et du design.
Alors là, on a l'impression qu'on revient un tout petit peu peut-être dans le cliché de la langue française, langue de l'élégance, langue de la mode, mais en même temps, c'est porteur d'affaires possibles, et quand je dis des affaires, c'est pour traduire ce mot de business. C'est les affaires qu'on fait.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est pas seulement pour parler de la mode et du design, c'est pour être capable de dialoguer, de communiquer sur ces thématiques-là. Et donc, c'est pour ça que nous proposons ces ressources à partir de portraits de personnages. Alors, peut-être un peu clichés autour de la mode comme Jean-Paul Gaultier, mais aussi des choses un peu plus poussées avec un designer, peut-être que vous connaissez, ce designer togolais Kossi Assou. Et donc, nous, ce qu'on propose en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, ce sont ces ressources qui vont nous permettre de communiquer dans ces contextes-là.
Bien, merci beaucoup pour tout ça, Julien Cousseau. J'en profite pour saluer avec admiration la qualité du français des professeurs que vous avez rencontrés à Bombay, puisque c'est là que vous étiez à la fin mois de novembre pour assister à ce congrès des professeurs de français en Inde. Merci d'avoir été avec nous dans la danse des mots. Merci aussi à Yahya Belaskri qui y était il y a quelques minutes pour nous parler d'Abdelkader dans cette danse des mots qui est proposée par le réseau Canopée et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.